Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est midi pile à Kinshasa, 13h à Bunia, en Ituri. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Nord Kivu remise hier vendredi à Beni à la société civile des 11 otages libérés au début de ce mois de mars des mains des rebelles de ADF par l'armée. Les coordonnateurs urbains de la société civile a salué la bravoure de l'armée et appelle la population à se ranger derrière les FARDC. Dans la province de l'Équateur, des voix s'élèvent à nouveau pour réclamer l'enrôlement de nombreux peuples autochtones pygmées plus de 2 semaines après la clôture officielle. Ces derniers affirment avoir été l'objet de discriminations pendant les opérations d'identification et d'inscription des électeurs. Le Maniema a déjà enregistré plus de 250 000 déplacés et plus de 71 000 ménages sinistrés sans appui suffisant. Cette question a été au centre de l'échange à Kindu entre le chef de bureau adjoint d'Otcha RDC et les autorités locales ainsi que les relais humanitaires de la province du Maniema. Abdoulaye Sawadogo est l'invité de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nord Kivu a béni 11 otages, dont 5 filles et 6 hommes, libérés au début de ce mois de mars des mains des rebelles ADF par l'armée, ont été remis hier vendredi au coordonnateur urbain de la société civile. Celui-ci a salué la bravoure de l'armée et appelle les jeunes ainsi que la population à se ranger derrière les FARDC. Marc Marofimbo pour plus de précisions.
Ce sont des civils pris en otage par les IDF le 23 février dernier à Kainama, dans le territoire de Beni. Ces derniers ont été sauvés à la suite des opérations des forces conjointes FARDC-PDF dans cette région depuis le début du mois de ce mars. Ils ont été remis par l'armée à la coordination urbaine de la société civile pour leur retour dans leurs familles respectives. Une satisfaction pour le président de la société civile de la ville de Beni, qui a appelé la population à se désolidariser des rebelles auteurs de l'insécurité dans la région et à continuer de collaborer avec son armée. Papin Kavota.
Merci l'armée qui a fait un travail de titan parce que faire sortir des mains de ces ADF une équipe de 11 personnes, c'est un grand travail. Nous profitons de cette occasion pour dire à notre population de collaborer toujours avec son armée. Toute personne qui collaborerait avec l'ennemi, il doit s'amender pour démontrer à quoi il est un bon citoyen congolais parce que la paix ne peut pas venir chez nous si nous continuons à collaborer avec ces ennemis de la paix. Je demande à tout le monde de s'amender pour être beau citoyen, de collaborer avec l'armée pour que la paix revienne chez nous à Beni.
Ces otages ont passé un mois entre les mains de l'armée loyaliste et leur prise en charge a été totale, a dit le porte-parole des opérations Sokola 1, le capitaine Anthony Malouchai. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Nord Kivu, encore des affrontements qui opposent les rebelles du M23 aux groupes armés locaux ont été signalés toute la matinée de ce samedi dans les environs de Busumba. C'est non loin de l'agglomération de Mueso, en groupement Bachali Mukoto. Selon diverses sources locales, les rebelles du M23 maintiennent toujours leur position dans cette zone en dépit de l'annonce de leur retrait. Dans un communiqué de presse rendu public hier vendredi, l'armée gouvernementale qualifie cette attitude des rebelles d'une simple diversion. Des détails avec Pierrot et Lamangi.
Ces violents combats qui ont éclaté vers 5h du matin de ce samedi opposent les rebelles du M23 aux groupes armés locaux qui s'appellent les Wazalendo. Les hostilités se sont poursuivies tout l'avant-midi dans le village Kabati. C'est à environ 4 km de l'agglomération de Busumba vers Kirumbu dans le groupement de Bachali Mukoto. Selon les sources locales, les rebelles du M23 qui s'étaient retirés des Mueso le 13 mars courant maintiennent toujours leur position à Kirumbu. Même situation dans et autour de Kichanga à 20 km plus à l'est. Dans un communiqué rendu public hier vendredi, le porte-parole du gouverneur militaire Constant Diman qualifie l'annonce du retrait des rebelles de cette zone prévue pour le déploiement des troupes burundaises de l'EAC d'une diversion. À en croire le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, les M23 RDF qui font semblant de retrait renforcent en hommes et en matériel militaire leur position dans plusieurs localités des territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. C'est notamment à Kishishe, Bambo, Karenga, près de Sake et qui Bumba. Certaines sources coutumières locales parlent d'une arrivée d'autres rebelles du M23 depuis avant-hier jeudi dans les collines de Mueto et Nyamitaba près de Kilolirwe où les troupes burundaises de l'EAC se sont déployées récemment.
Et puis la société civile du Nord Kivu dénonce la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Goma. Selon les animateurs de cette structure, il ne se passe plus une nuit sans que l'on enregistre des cas de cambriolage nocturne et l'extorsion des biens. Le phénomène 40 voleurs refait surface. La surmilitarisation de la ville et la présence de nombreux déplacés seraient entre autres les causes de cette insécurité. La société civile en appelle aux autorités de focaliser leur attention sur la sécurité de la ville. Des détails avec Denise Loukesso.
La société civile provinciale, dans son registre de monitoring des cas d'insécurité en ville de Goma, note pour une seule période de ces mois de mars, 3 personnes tuées, plus de 40 maisons cambriolées et beaucoup de cas d'extorsion des biens des populations. Les quartiers les plus concernés sont notamment Mabanga Nord et Sud, Kasika, Ndosho, Katoy, Majengo, Imbi et une partie des Virunga. Ces animateurs attribuent cette montée au retour du phénomène 40 voleurs, mais aussi la surmilitarisation de la ville notamment. Placide Nzilamba, secrétaire technique.
Le plus grand facteur qui cause la hausse de cette insécurité, c'est d'abord la surmilitarisation de la ville de Goma, mais aussi la surpopulation de la ville de Goma. Vous comprenez que des populations Fouibsaké, Masisi, Rutshuru, Rugari se concentrent maintenant à Goma et ses environs. Il y a des militaires qui sont venus en renfort, qui sont aussi dans la ville, et parfois, certaines brebis galaises commettent des actes sur les populations civiles. Les autorités aujourd'hui se concentrent plus sur la guerre du M23 et parfois mettent au frigo des cas de gestion de la cité.
Et pour faire face à cette insécurité, les jeunes de certains quartiers se constituent en gardiens des temples pour leur auto-prise en charge. Nous n'avons pas pu avoir la réaction des autorités ni de la police urbaine. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Et dans le territoire de Niragongo, toujours au Nord Kivu, 3 personnes ont été tuées et 4 autres blessées la nuit de vendredi à ce samedi. L'incident a eu lieu dans le village Bougamba, au nord du quartier Ndosho, dans la ville de Goma. Selon les sources locales, des bandits armés inconnus ont fait incursion vers 1h du matin dans le domicile des victimes, dont le préfet des études de l'école secondaire Ushirika de Sake, une école conventionnée protestante de la 8e CEPAC. Ils ont tué le préfet Baleke Yenga Yenga et ses 2 enfants. 4 autres personnes dans les voisinages ont été gravement blessées et se trouvent actuellement à l'hôpital. Sous un autre chapitre, la restauration d'un tribunal pénal pour l'Ituri pour juger les auteurs des crimes dont les EMA sont victimes. C'est l'une des recommandations du dialogue intercommunautaire INTE qui s'est clôturé hier vendredi à Bounia. Pendant 4 jours, des centaines de membres de cette communauté ont réfléchi sur une voie de sortie de la crise sécuritaire qui affecte les territoires de Djougou et Irumu depuis décembre 2017. Tous sont unanimes pour appuyer les processus de paix en cours dans cette province. Des détails avec Martial Kizabiamungu.
C'est un tableau sécuritaire sombre que les participants au dialogue intracommunautaire EMA ont retracé dans le territoire de Djougou, Irumu et dans la ville de Bounia. Selon cette communauté, 774 villages ont été détruits ou occupés depuis le début des atrocités dont ils se disent victimes. Elle signale aussi 57 fosses communes où leurs membres ont été enterrés et les déplacements de la population de leurs villages. Comme piste et solution, NT demande que l'État restaure son autorité et que les crimes dont ils se disent victimes, les auteurs soient poursuivis.
Des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité, crimes imprescriptibles. Les solutions suivantes à ces crimes sont les plus urgentes. 1. La restauration de l'autorité de l'État congolais. La création d'un tribunal pénal pour le territoire. L'arrestation et le jugement de tous les auteurs intellectuels et matériels de ces crimes commis. Le redéploiement des forces de sécurité et de défense en tenant compte de la cartographie des bastions des groupes armés. Nous interpellons les pouvoirs publics de restaurer rapidement leurs prérogatives régaliennes en faisant respecter les dispositions légales en matière de limites administratives.
Ces concertations ont bénéficié de l'appui technique et logistique de la MONUSCO et des autorités provinciales de l'état de siège. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Parlons encore enrôlement des électeurs à l'Équateur qui fait pourtant partie de la première ère opérationnelle. Plus de 2 semaines après la clôture officielle, des voix s'élèvent à nouveau pour réclamer l'enrôlement de nombreux peuples autochtones pygmées. Ces derniers affirment avoir été l'objet de discriminations pendant les opérations d'identification et d'inscription des électeurs. Mais pour la CENI Équateur, tout s'est clôturé. C'est plutôt le ramassage de matériel qui est en cours. Le point avec Paul-Richard Malengela.
En Bandaka, le président de la notabilité de la ville plaide encore pour l'enrôlement de plusieurs de ses concitoyens. Constant Mogwema cite particulièrement les nombreux peuples autochtones habitant le chef-lieu de l'Équateur, mais aussi dans les territoires de Bikoro et d'Ingindé.
Les peuples autochtones sont venus se plaindre à notre siège, parce que jusqu'à là, ils ne sont pas enrôlés. Alors, les peuples autochtones sont nombreux sur la route de Bikoro. Ils attendent là-bas. Alors, c'est pour ça que nous demandons aux autorités de la CENI de voir un peu cette situation ici, dans la ville de Mbandaka, jusqu'au niveau de Bikoro et au niveau d'Ingende.
Certes, le vote est un droit civique reconnu à tout Congolais, mais le secrétaire exécutif provincial de la CENI Équateur a simplement regretté pour ces peuples autochtones pygmées, y compris tous les retardataires qui n'ont pas respecté le délai jusqu'à la fin de la prolongation de l'enrôlement, car tout s'est clôturé définitivement le 4 mars dernier à l'Équateur, a précisé Achille Bolekila. L'heure est plutôt au ramassage de matériel, dont une partie est déjà entreposée à la CENI. Enfin, le CEP Achille Bolekela a rassuré que les données des centres d'inscription les plus éloignés continuent encore à venir. L'Équateur va franchir la barre de 100% des prévisions, a-t-il estimé. Mbandaka pour Chamalengela, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, le ministre d'État et ministre du Développement Rural, François Rubota, a célébré hier à Uvira avec sa base sa reconduction au gouvernement Sama Lukonde II. Tout en remerciant le président de la République ainsi que le premier ministre Sama Lukonde, le ministre d'État François Rubota a appelé la population d'Uvira et de Fizi à s'enrôler massivement pour porter Félix Tshisekedi à la tête du pays lors des prochaines élections présidentielles. Aux jeunes, il a demandé de s'enrôler dans l'armée régulière en vue de repousser les velléités guerrières des pays voisins, dont le Rwanda. Dans une conférence de presse, François Rubota a évoqué quelques réalisations de son secteur. Des détails avec Fiston Ngoma.
Les projets d'électrification de Luvungi et Katogota dans la plaine de la Ruzizi ont finalement démarré après plusieurs obstacles entretenus par des acteurs locaux. Le ministre d'État en charge du développement rural, François Rubota, a précisé que ce projet d'électrification ne concerne pas que les deux localités.
C'est une première phase. Ce que nous avions souhaité, c'est l'électrification de toute la plaine de la Ruzizi jusqu'ici à Uvira. Nous sommes derrière le projet de rénovation de la centrale de Bendera. Cette rénovation pour tirer la capacité de production d'énergie à 85 MW, pourquoi pas à 100, ce qui ferait que nous ayons de l'électricité dans la province du Tanganyika et aussi vers le sud Kivu, en passant par le territoire de Fizi.
Le conseil urbain de la jeunesse d'Uvira a salué par ailleurs les efforts de plaidoyer effectués par ce ministère du développement rural dans la réhabilitation d'une centaine de kilomètres des routes de dessertes agricoles en territoire d'Uvira et de Fizi. Ces travaux ont été exécutés par Inops et Picagel. François Rubota a mentionné les programmes de développement local des 145 territoires confiés aux agences PNUD et BESECO, dont les travaux ont déjà démarré au site Kivu. À Luvungi, où il s'est enrôlé, le ministre d'État a reçu plusieurs doléances liées aux lacunes d'enrôlement des électeurs en cours, des doléances qu'il a promis de transmettre à la centrale électorale à son retour à Kinshasa. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Kapi.
Et toujours au sud Kivu, plusieurs ménages sont mis de quitter leurs habitations pour éviter les dangers qui planent sur leurs parcelles, menacés d'éboulement au quartier d'Endere, avenue Ruzizi 2 dans la commune d'Ibanda. L'autorité communale a ordonné hier vendredi le scellage de ce site réputé dangereux après un éboulement de terre qui a causé deux morts pendant la nuit de jeudi. D'après le bourgmestre de la commune d'Ibanda, des familles déguerpies par mesure de protection ne sont pas prises en charge par la municipalité faute de moyens. Pour sa part, le chef de quartier Nendere indique que le scellage du site constitue le moindre mal au regard des vies humaines déjà disparues à cet endroit. Albert Migabo, automico de Jean Kassami.
À l'heure où nous parlons, nous sommes déjà à la commune. Ce sont deux familles démunies. L'autorité communale ont été là aussi pour évaluer les dégâts. Et ça a été énorme. Ils ont trouvé que vraiment, il faut un soutien moral, un soutien aussi matériel. Nous sommes ici avec la famille de nos amis qui venaient de faire de les siens.
L'idée de délocalisation serait à l'ordre du jour.
D'ailleurs, ça a été parmi les résolutions aussi qu'on avait envisagées. L'autorité avait pensé que ces gens-là ne devaient plus rester à cet endroit-là. C'est une colline qui contient un sol qui se désagrège très facilement. Il faut y planter des arbres pour protéger cette colline et protéger la population et aussi protéger même la route qui est en pleine construction à partir de la frontière du 2 jusqu'au niveau des Major Bang. Et aussi que les gens qui viennent distribuer le sol à un endroit inconstructible puissent cesser. Je pense que ces quelques recommandations-là pouvaient nous aider à nous épargner, à comptabiliser les morts.
Dans la même nuit, un autre glissement de terre a causé la mort d'une personne à Bouhosi, un groupement de Moudoussa dans les périphéries de la ville de Bukavu. En bref, au total, 180 personnes sont mortes de la tuberculose dans la province du Kwilu durant l'année 2022. La maladie a, au cours de la même année, touché 14 787 personnes dans toutes ses formes, chiffres représentant un taux d'accroissement d'environ 10% par rapport à l'année 2021, où 12 530 cas ont été recensés. Ces statistiques ont été rendues publiques par le médecin coordonnateur des programmes de lutte contre la lèpre et tuberculose à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars dernier. Docteur Willy Moussantou sensibilise la population à se faire dépister en cas de symptômes de la maladie. L'objectif est de réduire l'incidence de la tuberculose dans la province au Kwilu à l'horizon 2030. Docteur Willy Moussantou précise que la prise en charge de cette pathologie est gratuite.
Actualité internationale.
Paul Rusesabagina, farouche opposant du président Paul Kagame et héros du film Hôtel Rwanda, a été libéré hier vendredi soir. Il a été remis à l'ambassadeur du Qatar avant son retour aux États-Unis, a annoncé un responsable américain. Les États-Unis n'excluent pas à terme des négociations sur les frontières de l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré jeudi dernier Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, devant une commission parlementaire à Washington.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chef de bureau adjoint de OCHA RDC, Abdoulaye Sawadogo, a échangé à Kindu avec les autorités locales et les relais humanitaires de la province du Maniema sur les crises qu'elle connaît. Cette province enregistre en effet déjà plus de 250 000 déplacés et plus de 71 000 ménages sinistrés sans appui suffisant. Abdoulaye Sawadogo répond aux questions de Florence Kizalunga.
Monsieur Abdoulaye Sawadogo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête d'une forte délégation des humanitaires. Après échange avec les relais humanitaires de la province, qu'en dites-vous de cette situation humanitaire catastrophique du Maniema?
Merci beaucoup de me donner cette opportunité. En effet, on est avec une forte délégation composée des agences des Nations Unies, des ONG internationales, des ONG nationales, pour pouvoir discuter avec les autorités et les partenaires sur la situation humanitaire et voir dans quelle mesure la communauté humanitaire peut appuyer les efforts qui sont en cours dans la province pour résoudre ces problèmes-là. Tout à l'heure, on nous parlait de presque 250 000 personnes déplacées dans la province. Et en plus de ça, il y a des populations du Maniema qui se sont aussi déplacées dans d'autres provinces voisines du Tanganyika et du Sud Kivu. Et il y a des problèmes de malnutrition qui ont été évoqués, des problèmes de sécurité alimentaire, des problématiques de santé, l'épidémie de rougeole, etc. Et aussi, de temps en temps, des problèmes d'inondation au niveau de la province. Donc, on a évoqué toutes ces questions et on s'est accordé que c'est des choses qu'il faut approfondir. Et il faut en discuter et de telle sorte qu'on soit capable effectivement de pouvoir organiser collectivement le plaidoyer et aussi la réponse par rapport à ces situations humanitaires que vit la province, surtout au bénéfice des populations.
Mais ça fait longtemps que la province traverse cette situation. Pourquoi nous n'avons pas d'appui suffisant?
C'est vrai qu'il y a des problématiques, mais je pense qu'il y a des appuis qui sont là. Tout à l'heure, on a parlé de l'UNICEF, on a Alima qui est là, qui appuie. Il y a des partenaires qui sont à Kamambare, qui essaient aussi d'appuyer de leur façon. Mais globalement, l'appui est insuffisant. On a rencontré le gouverneur aussi, qui nous a parlé un peu de tous les efforts que la province est en train de mettre en place par rapport à ces problématiques. Mais je pense que tout ceci est insuffisant et il va falloir voir comment on peut collectivement adresser ces problématiques-là. Et ne pas seulement regarder l'humanitaire comme seul élément de réponse, mais explorer aussi les actions de développement, les actions de résilience, les actions de consolidation de la paix, de prévention de la paix, et tout ça mis ensemble doit être capable de faire un impact et être capable de pouvoir renforcer un peu cette réponse qui est en cours.
Certaines langues pensent que le Maniema est délaissé du fait que nous traversons des situations humanitaires très graves. OCHA n'est pas active dans cette province ou soit réagit toujours en retard.
Non, je pense que la province n'est pas délaissée et comme je l'ai dit au partenaire, le Maniema fait partie du plan de réponse humanitaire. Ça veut dire qu'il y a une attention particulière qui est aussi accordée à toutes les problématiques qui sont dans la province. Mais aujourd'hui, globalement, on fait face à une situation assez difficile pour toute la communauté humanitaire. Sauf que de plus en plus, on a des besoins, on a moins de fonds qui rentrent. Voilà, donc comme je le disais, il faut prioriser et souvent c'est des priorités assez difficiles. Et notre présence aujourd'hui au niveau de la province de Maniema, c'est pour dire que donc, on veut regarder ce qui se passe ici et on veut aussi appuyer les partenaires à apporter une réponse adéquate par rapport à ce qui se passe.
Pourquoi OCHA agit de loin? La population réclame que vous rentrez ici en province. Qu'est-ce que vous pensez?
Non, je pense que OCHA était là et on est parti, je crois, près une année et demie, deux ans, liée effectivement à une restructuration de OCHA. On a essayé effectivement d'avoir des capacités mobiles qui peuvent venir ici de façon régulière. On a entendu avec les partenaires qu'ils veulent le retour de OCHA. Mais je pense qu'on a des points focaux qui sont là, avec la Caritas au niveau du maniement qui fait bien ce travail-là et qu'on va continuer à renforcer. Je prends bonne note de cette demande-là. Vous avez vu le chef de bureau de OCHA qui a pris la parole lors de la réunion, qui a dit que dans les jours à venir, il va revenir, il va passer du temps ici. Et le plus important, c'est pas que OCHA soit présent ou pas, mais que la coordination, elle soit opérationnelle et efficace pour que nos points focaux et les partenaires qui sont là, qu'ils soient dans une dynamique de coordination opérationnelle efficace pour une réponse appropriée aux problématiques des populations.
Plus de 250 000 déplacés et plus de 71 000 ménages sinistrés en province. Qu'est-ce que OCHA pense ou dit à cette population?
Ce que je voudrais dire par rapport à cette population, c'est de dire que la communauté humanitaire est à leur côté et nous faisons le maximum de ce qu'on peut. Mais je pense que le plus important aussi, c'est aussi les actions du gouvernement, parce que ces gens sont déplacés parce qu'il n'y a pas de sécurité et il y a des violences. Et on attend beaucoup effectivement des autorités que la sécurité soit renforcée. Le gouverneur nous a parlé du programme PDSSS qui est en train de se mettre en œuvre. On espère que ce programme va aller jusqu'au bout et que nous, en tant qu'humanitaires, on vient en appui aux efforts du gouvernement, ce qui est très très important.
Monsieur Abdoulaye Sawadogo, merci.
Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité.
Fin de ce journal qui a été coordonné par Pierrot Elamenji et supervisé par Alain Irung. La technique était assurée par Jean-Claude Siala. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.